Bonjour, le magazine du week-end, c'était chaque samedi et chaque dimanche de l'été jusqu'à aujourd'hui. 1h10 pour revenir sur l'actualité nationale et internationale. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 13h50. C'est une annonce qui a fait grand bruit la semaine dernière. La normalisation des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et Israël a été présentée par Donald Trump comme un accord de paix historique. Benjamin Netanyahou, lui, n'a pas hésité à comparer l'événement à la paix israélo-égyptienne de 1978. Dans les communiqués diplomatiques, il y avait pourtant une absente de taille, la Palestine. Il y a quelques années, aucun pays arabe n'aurait pu imaginer se rapprocher de l'État hébreu sans en référer aux Palestiniens. Est-ce le signe que le conflit israélo-palestinien est devenu une question périphérique des relations internationales ? Nous en parlerons aux alentours de 13h20 avec nos invités. Mais d'abord, direction le fort de Brégançon dans la première partie de cette émission. C'est dans ce décor idyllique de la résidence d'été des présidents de la République qu'Emmanuel Macron a reçu la chancelière Angela Merkel ce jeudi. Une visite hautement symbolique quelques semaines après l'adoption du plan de relance européen par les 27. Le couple franco-allemand avait pesé de tout son poids pour remporter un accord contre le front des pays dits « frugaux ». Toute l'Europe a relevé la bonne santé retrouvée de l'union franco-allemande, une union qui s'était singulièrement distendue dans les premiers moments du quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce le signe que décidément rien d'important ne peut se passer en Europe sans une entente forte entre Paris et Berlin ? Nous en parlons avec trois invités. Marion Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, chargée de cours à Sciences Po Paris, spécialiste de l'histoire de la relation franco-allemande. Birgit Holzer est avec nous aussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous couvrez l'actualité française pour plusieurs titres de la presse régionale allemande. Jean-Sébastien Lefebvre, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre. Vous êtes journaliste, hein, vous aussi, vous êtes le chef du bureau bruxellois de la revue Contexte. Alors si vous le voulez bien, peut-être un premier tour de table sur cette entente retrouvée qui s'affiche très symboliquement à Brégançon entre la France et l'Allemagne. On a eu donc une mise en scène, beaucoup de photos ce jeudi. C'était la première fois que Angela Merkel se rendait dans cette résidence d'été des chefs d'État. Et elle a rappelé d'ailleurs que le dernier chancelier allemand à Brégançon, c'était Helmut Kohl en 85, donc un symbole fort pour marquer ce qui a été accompli en juillet dernier avec l'accord européen. Il fallait bien ce type de symbole, Marion Gaillard ?
Oui, ben, ils se sont tous les deux d'emblée dans la conférence de presse inscrits dans les pas de ce couple fameux qui est resté comme un des couples les plus resserrés de l'histoire de la relation franco-allemande. Donc Emmanuel Macron a commencé aussi par le rappeler et de toute façon vous avez parlé, vous avez dit le mot clé, mise en scène. Et la relation franco-allemande, elle est jalonnée de moments de mise en scène. C'est pas du tout nouveau, hein. On peut pas leur reprocher à eux de jouer dans une époque médiatique la théâtralisation de cette relation. C'était déjà le cas. Évidemment sous Mitterrand et Kohl, mais aussi par exemple sous De Gaulle et Adenauer. Donc cette mise en scène qui vise en fait à toucher les populations, à toucher au cœur les populations et à sortir des choses très techniques qui peuvent paraître un peu ennuyeuses, c'est vraiment le cœur de la relation franco-allemande pour créer un mythe de la réconciliation et du moteur pour l'Europe. Donc il fallait ça, il faut toujours ça, mais il ne faut pas que ça. Donc après, pour que ce soit crédible, il faut que les mots et les images soient suivis d'actions concrètes.
Oui, les symboles ne suffisent pas toujours. Jean-Sébastien Lefebvre, c'était important quand même cet affichage d'une bonne entente retrouvée entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à Brégançon.
Oui, c'était un petit peu la suite de l'accord du mois de juillet dernier au Conseil européen, où là, ils ont fait des choses concrètes, et c'était un petit peu dire, voilà, ça va continuer, on continue dans cette dynamique, et c'est pour ça qu'Angela Merkel est invitée à Brégançon, on va pouvoir parler de l'actualité qui en plus est chargée pour un mois d'août, donc ça permet de faire un petit peu le point, et ils l'ont dit aussi, c'est pour continuer, ça veut dire qu'ils vont aussi, les deux chefs d'État, suivre la mise en place du plan de relance européen sur lequel ils se sont mis d'accord à 27 au mois de juillet. Donc ça s'arrête pas, ça continue. C'était ça aussi le message.
Birgit Holzer, cette mise en scène, même avec ce qu'elle peut avoir de superficiel, elle a été saluée en Allemagne et dans la presse allemande en particulier.
En tout cas, elle a eu pas mal d'échos, donc on en a parlé. On a aussi souligné que c'était effectivement extraordinaire, que c'est une fois par an que Emmanuel Macron accueille un invité un peu VIP au fort de Brégançon en pleine vacances.
C'était encore Vladimir Poutine l'an dernier, hein, pour rappel.
Voilà, et avant c'était Theresa May, donc toujours dans un contexte international particulier. Donc oui, ça a été salué, ça a été remarqué en tout cas. Normalement, ce couple franco-allemand, la chancelière et le président se voient toujours juste avant des sommets européens pour aligner leurs positions. Là, c'était effectivement pour reparler ensemble, reparler devant le monde, derrière un contexte international assez chargé. Et je pense même ces conflits dont ils ont parlé, la Biélorussie, le Mali, le Liban aussi, ont beaucoup joué aussi dans leurs discussions.
Oui, les sujets internationaux ne manquaient pas effectivement dans ce sommet. On va en parler dans un court instant. Marianne Gaillard, je voulais vous lire quelques mots que j'ai lus dans une tribune de Sylvain Kahn sur le site The Conversation, une tribune qui m'a marqué parce qu'il dit la chose suivante, Sylvain Kahn: Angela Merkel et Emmanuel Macron, tandem jusque-là poussif, viennent d'endosser la tunique immortelle du couple franco-allemand avec laquelle les Français se racontent chaque renforcement de leur nouveau pays qu'est l'Europe. Alors, c'était une tribune qui a été écrite en mai dernier, donc avant l'accord de relance européen. Mais on a sentiment quand même que, après avoir été distendu, cette relation allemande, franco-allemande redevient quelque chose d'absolument essentiel. Rien d'important ne peut se passer en Europe s'il n'y a pas cette union, malgré les dissensions.
Oui, tout à fait. Ça, je crois vraiment que c'est l'alliance nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pour revenir sur cette idée que la relation a été distendue, en réalité, elle était distendue depuis plus d'un quart de siècle, on va dire depuis la fin de l'ère Mitterrand-Kohl, ça n'a jamais été idyllique. Et il faut quand même se souvenir que avant qu'elle soit distendue, elle a été très positive dans les toutes premières semaines en réalité de l'élection d'Emmanuel Macron, où on a dit ah ben voilà, on a un candidat et un président qui est très germano-compatible, et ça a fait d'ailleurs l'objet de quelques critiques par certains dans la classe politique française. Il faut se souvenir que pendant la campagne, Emmanuel Macron avait clairement dit qu'il fallait faire l'Europe non pas contre l'Allemagne, mais avec l'Allemagne, et il avait vraiment insisté sur cette importance, ce qui n'est pas très favorable. Enfin, on pouvait dire que c'était pas très électoraliste, parce que ça fait pas forcément des voix de dire qu'on va faire les choses avec l'Allemagne. Et puis ensuite, ça s'est distendu, comme vous l'avez dit, et ça s'est distendu notamment parce qu'il a fait beaucoup de propositions en faveur d'une relance européenne, notamment de gouvernance de la zone euro, qui sont restés sans réponse. Parce
notamment
que
dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017.
Exactement, le 26 septembre 2017. Et comme l'Allemagne était dans un cycle électoral qui, en plus, s'est mal enclenché ensuite, puisque Angela Merkel a mis énormément de temps, plusieurs mois, à trouver une coalition avec des partenaires potentiellement plutôt anti-européens ou en tout cas réticents sur l'Europe, comme d'abord le Parti libéral et puis la CSU. Ce qui fait qu'il y a eu un moment où, en fait, il s'est retrouvé un petit peu tout seul et il n'a pas eu de la réponse attendue. Donc ça a déçu et ça a donné lieu en France à des critiques où on a dit « Ah bah voilà, vous avez tout misé sur l'Allemagne et maintenant vous vous retrouvez fort dépourvu quand la bise est venue ». Voilà, alors là on retrouve effectivement cette entente.
Alors Birgit Holzer, ce tandem franco-allemand était vraiment à la manœuvre pendant le dernier sommet européen pour arracher cet accord de relance, hein, 750 milliards dont la moitié, à peu près un peu moins, de dettes communes. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pour que d'un coup d'un seul Angela Merkel en vienne à considérer que les positions françaises pouvaient rejoindre les intérêts de l'Allemagne?
C'était effectivement aussi une surprise pour certains Allemands, je pense. Je pense que c'était jusque maintenant un tabou de mutualiser des dettes. Et Angela Merkel a fait ce pas vers la France. Je pense qu'on peut dire dans ce cas-là que c'était aussi un succès de négociation de Emmanuel Macron, parce que naturellement, elle aurait pu facilement se mettre, prendre la position des pays dits frugaux. Mais elle a fait ce pas. Je pense qu'il y en a plusieurs raisons. Déjà, l'opinion publique allemande a un peu bougé là-dessus. Pendant la crise grecque, on a encore vu que les contribuables allemands voulaient pas forcément, ou en tout cas pas avoir le sentiment de payer pour les autres. C'est un peu raccourci, mais c'était un peu le débat. Maintenant, on a vu que pendant la crise du Covid, l'Allemagne s'en est sortie un peu mieux, avec beaucoup de chance aussi. Donc, on a vu qu'il fallait une réponse, qu'il fallait faire quelque chose. Et je pense qu'une raison encore plus forte, c'est que l'Allemagne a compris que sans les autres pays, surtout sans les autres pays qui ont l'euro, mais tous les pays européens, l'Allemagne est toute seule, elle ne peut rien faire. Sa force est aussi la force des autres.
Il y a eu cette prise de conscience d'Angela Merkel que l'Allemagne ne pouvait pas se passer de ses partenaires européens.
Je pense que c'est ça. Et on sait du coup, elle s'est alliée avec Emmanuel Macron. En Allemagne, c'est plutôt, contrairement peut-être à la France, la politique politique intérieure française, mais je crois que c'est plutôt bien vu aussi de s'allier à la France et de dire on trouve un compromis ensemble.
Jean-Sébastien Lefebvre, dans les couloirs des institutions de Bruxelles, c'était un petit peu un retournement, ce retour en grâce de l'Union franco-allemande dans ce sommet européen. Comment ça a été vécu par les diplomates, par les élites des deux côtés, en France et en Allemagne ?
À Bruxelles, chez les diplomates français et allemands, ça a été plutôt bien vu. Après, ce sont diplomates, donc quand ils reçoivent des ordres des capitales, ils les mettent en place, etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment ça a été surtout perçu par les autres, à l'extérieur, au couple franco-allemand. C'est-à-dire que chez les Italiens et les Espagnols, ils se sont dit « enfin ». Les choses vont bouger, comme vous l'avez dit précédemment, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est poussif, l'Allemagne ne répond pas aux propositions, etc. Donc, au sud de l'Europe, ils se sont dit, ah voilà, les choses vont bouger dans le bon sens pour nous. Et à l'inverse, au nord, ce qui s'est passé, et on l'a vu pendant le sommet, c'est pour ça que ça a été si compliqué, il y a eu une sorte de peur qui s'est un petit peu créée en se disant, il y a un bulldozer franco-allemand qui est en train de se mettre en place, avec en plus des pays du sud qui vont les soutenir. Nous et notre vision, on va se retrouver tout seul parce que finalement notre grand pays qui nous protégeait, l'Allemagne, elle a changé de bord. Et encore plus loin, ces pays-là se sont dit, on n'a même plus le Royaume-Uni pour nous aider à empêcher une plus grande intégration de l'Union européenne sur certains dossiers où nous aussi, on a une vision très britannique des choses. Et donc du coup, ça, ce retour en force sur le sujet de l'intégration de la zone euro a à la fois provoqué chez certains un soulagement en se disant, enfin, ça avance, et chez d'autres, au contraire, une peur en se disant, on va se faire balayer, on est tout petit, ils sont énormes, on va se faire manger et l'Europe va devenir franco-allemande.
Alors il y a évidemment une autre actualité que je n'ai pas encore mentionnée dans cette émission mais qui est extrêmement importante, c'est un arrêt du 5 mai 2020 de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe qui a peut-être fait bouger les lignes politiquement en Allemagne. Cette demande, donc la Cour constitutionnelle allemande demandait des garanties à la BCE sur des programmes de rachat de dettes publiques européennes, des rachats de dettes qui étaient antérieurs évidemment à la crise Covid de cette année. Ça a fait peut-être prendre conscience à Berlin que le projet politique européen reposait peut-être sur quelque chose qui n'était pas très solide, qu'il fallait peut-être solidifier justement, d'où peut-être cette volonté d'aller plus loin, notamment dans cette mutualisation de la dette, Marion Gaillard.
Oui, alors je parle sous le contrôle de Birgit Holzer parce qu'elle connaît mieux l'Allemagne que moi, mais je pense que cette décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe a joué un rôle très très important, parce qu'il a en gros demandé des comptes sur la politique de rachat de dette publique menée par la BCE depuis en réalité 2015, et puis qui s'est accéléré ces derniers mois. Et donc, en gros, le tribunal dit on ne peut pas laisser tout le poids de la relance économique et du soutien à l'activité économique à la Banque Centrale Européenne. Il y a un autre outil qui est la politique budgétaire et la politique monétaire ne peut pas tout assumer. Et la BCE elle-même l'avait dit depuis très longtemps. Et donc là, Angela Merkel, au lieu de se rigidifier, elle a dit clairement très très vite, sa réaction, ça a été de dire ça n'est pas un frein, au contraire, c'est un signal pour accélérer l'intégration économique de la zone euro. Donc ça a joué, je pense, un rôle très important. Et par ailleurs, juste pour terminé. Il y avait d'autres petits signaux que mon collègue et ami que vous avez cité, Sylvain Kahn, appelle les signaux faibles, qui étaient par exemple des interviews d'économistes de renom en Allemagne qui, depuis le printemps, disaient « il faut mutualiser la dette, on ne peut pas se permettre une implosion de la zone euro parce que notre économie en dépend ». On a eu aussi le patron de Volkswagen qui avait fait une interview dans le même sens. Donc on avait une évolution des milieux économiques allemands depuis le début de la crise du Covid. Ça, je crois que ça a joué un rôle aussi très important.
Birgit Holzer, cette évolution dont parle Marion Gaillard, elle est vraiment sensible. On se souvient que les positions très orthodoxes de Wolfgang Schäuble étaient très très mal perçues en France notamment et singulièrement dans le sud de l'Europe. Ce débat, il est fort en Allemagne en ce moment sur la question de la responsabilité budgétaire, sur la nécessité de faire peut-être un pas vers les positions françaises en l'occurrence.
Oui, je pense tout à fait. Effectivement, on n'a plus le même ministre des Finances aujourd'hui. C'est un ministre des Finances social-démocrate, Olaf Scholz. Et effectivement, je pense qu'en plus, la pandémie du coronavirus a encore ajouté quelque chose. Donc ça a encore facilité à Angela Merkel et à son gouvernement parce qu'elle ne décide pas toute seule, comme un président français parfois. Et là, ça lui a encore facilité de faire ce pas, je pense.
Alors, est-ce que on peut aussi expliquer les dissensions dont je parlais il y a quelques minutes entre la France et l'Allemagne, qui remontent maintenant à quelques temps, par des différences de culture politique entre la France et l'Allemagne, Paris et Berlin? Je voudrais vous dire en quelques mots le compte-rendu que le journal Le Monde faisait d'un dîner qui avait lieu à Berlin ou à l'occasion des 30 ans de la chute du mur. C'est Emmanuel Macron qui se fait apostropher par Angela Merkel, qui lui dit « Je comprends ton goût pour la politique de disruption, mais j'en ai assez de ramasser les morceaux ». Alors, je ne sais pas si vous connaissiez cet échange qui a été publié par le journal Le Monde, donc a priori est plutôt fiable, mais ces différences de culture politique entre les deux pays, qu'est-ce qu'elles font à la relation franco-allemande et qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, ils peuvent se rabibocher, ces deux chefs d'État et de gouvernement?
Déjà, Angela Merkel l'a dit au fort de Brégançon aussi, on n'a pas les mêmes tempéraments. Donc je pense que c'est une différence de culture politique, une différence de tempérament qui fait que là où on peut reprocher à l'Allemagne parfois d'être très très lente, de décider, d'avoir du mal, parce qu'en plus elle est gouvernée dans une coalition avec des Länder qui pèsent, parfois c'est très long. On a parlé du début de son mandat de Angela Merkel où elle a eu beaucoup de mal à trouver une coalition, donc elle peut pas être réactif tout de suite. Alors qu'en France, il y a un président avec beaucoup de pouvoir qui agit parfois de manière autoritaire, mais qui peut agir vite aussi. Donc c'est ça, deux histoires, deux cultures politiques complètement différentes et qui peuvent être, et ils ont dit ça aussi, complémentaires parfois. Mais ça peut se friter parce que parfois il y a aussi une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'autre.
Alors Jean-Sébastien Lefebvre, ces différences à la fois de tempérament mais aussi de culture politique entre la France et l'Allemagne, ça peut donner lieu à des frictions, notamment sur le plan international. Emmanuel Macron, également en 2019, déclarait que l'OTAN était en état de mort cérébrale. C'était des propos qui avaient un petit peu surpris Outre-Rhin parce qu'ils avaient été publiés par The Economist sans trop de concertation avec les partenaires allemands. Est-ce que ce genre d'initiatives peuvent être perçues aussi en Allemagne comme des Emmanuel Macron qui part comme un cavalier seul à l'assaut du monde? Est-ce que ça peut agacer aussi Outre-Rhin?
Ah oui, surtout cette déclaration sur l'OTAN avait particulièrement agacé à Bruxelles et pas que les Allemands, à peu près tout le monde. Après, il y a aussi une sorte d'incompréhension. Ça veut dire il y a toujours cette idée que de toute façon les Français n'aiment pas trop l'OTAN, qu'ils ont toujours cette idée de vouloir créer une Europe puissance, etc. Et du coup, les propos d'Emmanuel Macron ont été...
Alors Jean-Sébastien Lefebvre qui est avec nous en liaison mais qui reviendra peut-être dans quelques instants. Il y a peut-être un petit problème technique. Marion Gaillard, je me tourne vers vous. Ces rapports compliqués entre la France et l'Allemagne qui peuvent se traduire par des façons très très différentes d'envisager la défense, l'OTAN, les relations stratégiques. Ça crée des frictions entre les deux pays?
Oui, ça en a toujours créé. Le lien aux États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en réalité fait l'objet d'une différence extrêmement importante puisque nous avons à cœur d'assurer notre indépendance alors que l'Allemagne s'est inscrite dans le lien atlantique depuis les années 50. Donc ça a toujours été le cas et il y a une incompréhension des deux côtés sur ce lien à l'Amérique, même si l'Allemagne depuis quelque temps avait quand même pris petit à petit depuis Schröder des distances avec les États-Unis, hein. Depuis déjà la guerre en Irak, ça avait quand même marqué une rupture très très importante, y compris dans l'opinion publique allemande, si je ne m'abuse.
Alors je crois qu'on a retrouvé Jean-Sébastien Lefebvre qui est avec nous. Nous parlions de l'OTAN à l'instant et de cette initiative française, cette déclaration d'Emmanuel Macron très forte qui avait un peu ému Outre-Rhin. Jean-Sébastien Lefebvre, donc on retrouvera peut-être dans quelques instants. Alors Marion Gaillard, poursuivons sur ces grands dossiers internationaux. On a vu quand même à Brégançon que, au-delà du satisfecit hein, qui était affiché sur le bilan du sommet européen du mois de juillet, il y avait quand même des perceptions un tout petit peu différentes de la diplomatie. On parle beaucoup évidemment de cet opposant russe qui se trouve maintenant entre la vie et la mort, qui est en Allemagne, qui est un événement qui est venu un peu court-circuiter le programme prévu de cette rencontre franco-allemande. On sait que sur la Turquie, par exemple, aussi, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont des visions assez différentes. Emmanuel Macron, soucieux peut-être d'afficher la force de la France en Méditerranée orientale. Angela Merkel a peut-être un point de vue un peu différent sur ce lien qui unit l'Allemagne et la Turquie. Est-ce que ce type de friction, est-ce que ce type de différend ont pu quand même être débattus clairement entre Angela Merkel et Emmanuel Macron?
Alors, je n'en sais rien parce que je n'étais pas présente malheureusement, donc l'historienne que je suis aura hâte de voir peut-être un jour les archives, mais peut-être que ce sera ouvert un peu trop tard et que je serai déjà à la retraite. En tout état de cause, il y a forcément un lien différent puisqu'il y a à peu près 3 millions d'immigrés turcs en Allemagne, souvent proches du parti de Erdogan, donc c'est compliqué pour Madame Merkel. Et ensuite, de toute façon, on a cette différence de culture, pour revenir là-dessus, puisque je parle encore sous le contrôle de Birgit, mais l'idée d'une culture de la retenue en Allemagne, on n'aime pas montrer les gros bras en Allemagne, on n'aime pas faire des démonstrations de force, alors que la France n'a pas tellement de mal avec ça, peut-être parfois elle le fait un peu trop facilement d'ailleurs, et là encore on est donc dans une complémentarité, c'est-à-dire un pays qui n'hésite pas à intervenir sur la scène internationale, et un autre qui est beaucoup plus réservé, et il faut arriver à trouver des compromis entre les deux visions, et c'est pas mal parce que l'un tempère l'autre et l'autre pousse un petit peu le partenaire, donc c'est bien aussi.
Alors je crois que nous avons cette fois-ci enfin vraiment retrouvé Jean-Sébastien Lefebvre qui est avec nous par liaison. Vous m'entendez bien?
Oui, je suis là.
Ah voilà, nous parlions des différents franco-allemands quand même sur les questions diplomatiques. On parlait à l'instant avec Marion Gaillard de la perception un petit peu différente de ce que doit être la relation des pays européens avec la Turquie. J'évoquais avec vous il y a un instant, avant qu'on vous perde, les propos très offensifs d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. C'est quand même un peu singulier d'avoir à ce point deux sensibilités différentes sur les grandes questions internationales pour ce couple franco-allemand qui se présente quand même comme un partenariat inévitable en Europe.
Oui, après il faut voir aussi que sur le plan des relations internationales, une coordination poussée du couple franco-allemand est quand même quelque chose d'assez nouveau. La question des affaires étrangères n'a pas été le cœur de l'intégration européenne ces 50 dernières années. On a privilégié les questions économiques, les questions de marché intérieur, etc. Donc là, on voit maintenant une volonté sur certains dossiers de peser en commun et des Français d'amener les Allemands avec eux sur certaines choses pour peser plus. Mais c'est du coup quelque chose de nouveau, donc c'est assez compréhensible que ça soit encore un petit peu compliqué. Et puis après, il faut pas non plus se dire que le seul problème, c'est que les Allemands veulent pas forcément faire des choses avec les Français. C'est, est-ce que les Français, peut-être, sont aussi capables de laisser la place aux Allemands quand ils leur disent de venir et de faire des choses? Après, au moment, voilà. Les Français vont devoir peut-être apprendre à partager le rôle sur la place internationale et ce qu'ils sont prêts à le faire. Donc il y a besoin de temps et c'est des choses qui vont se faire petit à petit comme on l'a fait sur les questions économiques ou autres. S'il y a une vraie volonté de continuer sur ce chemin.
Birgit Elser, pour expliquer un peu ce réchauffement des relations franco-allemandes dont nous parlons depuis le début de cette émission, on peut peut-être se pencher sur ce qui a changé ces derniers mois et ces dernières années dans le contexte allemand. Et on peut évidemment dire quelques mots sur la longue fin de règne d'Angela Merkel, qui est chancelière depuis 15 ans bientôt. Cette longue fin de règne n'était pas prévue puisqu'elle avait désigné une dauphine, qui Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a depuis renoncer à succéder à la chancelière. Donc se trouve ouverte encore la question de sa succession. Et donc la situation politique en Allemagne est extrêmement ouverte. Il faut rappeler aussi que l'AfD, donc l'extrême droite allemande, est de retour au Bundestag. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce contexte politique allemand, il participe aussi peut-être de ce renouveau des relations franco-allemandes. En tout cas, il faut dire quelques mots sur cette question.
Oui, je pense qu'Angela Merkel, déjà, elle a un héritage à sauver d'une certaine manière. Et je pense que l'Europe, les questions européennes en font partie. Effectivement, au niveau politique intérieure, il y a des élections l'année prochaine, donc dans un an, un peu plus d'un an. Et effectivement, il y a d'un côté l'extrême droite qui monte. De l'autre côté, il y a aussi les Verts qui sont très, très forts. Donc, effectivement, la question de l'héritage au sein du parti de Angela Merkel, la CDU, n'est pas encore résolue. Il y a une compétition de plusieurs personnes, plus aucune femme, mais plusieurs hommes qui veulent lui succéder. Mais après, il y a encore les élections. Donc, et après, encore la recherche d'une coalition, etc. Mais effectivement, je pense en plus, encore une fois, la crise actuelle, la crise économique, mais aussi sociale, qui a été créée par le coronavirus, fait qu'Angela Merkel doit agir. Et en plus, contexte international plus compliqué avec les États-Unis qui sont plus le partenaire fiable qu'ils étaient avant, pour, en protégeant aussi au niveau militaire l'Allemagne et la Chine et la Russie de l'autre côté. Donc je pense que naturellement, et le Brexit. Donc naturellement, Angela Merkel se tourne vers Emmanuel Macron pour former une alliance.
Alors, Marion Gaillard, Angela Merkel obligée de reprendre la main et de s'en remettre, même symboliquement, à Emmanuel Macron. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire des relations franco-allemandes, que des questions de politique intérieure d'un côté ou de l'autre du Rhin aient des conséquences en termes d'entente entre les partenaires.
Oui, c'est souvent le cas. Déjà, par exemple, François Mitterrand, on a beaucoup mythifié le couple Kohl-Mitterrand, mais en réalité, au tout début, quand il a été élu, il remettait en cause la notion d'axe franco-allemand, justement pour se démarquer de Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'était bien de la politique intérieure qui influait. Finalement, il a été obligé d'y revenir, parce que il n'y a pas, à mon avis, d'alternative crédible et solide au couple franco-allemand. On se souvient aussi que Gerhard Schröder s'était rapproché de Tony Blair sur un thème de politique intérieure aussi, c'est-à-dire la troisième voie, la gauche moderne. Et il s'était éloigné de Lionel Jospin et de Jacques Chirac. Et puis finalement, la guerre en Irak a re-rapproché les deux pays, la France et l'Allemagne. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent finalement. De la même manière que François Hollande, comme ça n'est pas très bien vu à gauche d'aller trop dans la notion d'axe franco-allemand, surtout sur le plan de la politique économique et sociale, il avait essayé de jouer la carte Matteo Renzi, par exemple. Et puis ça n'a pas fonctionné. Donc en réalité, c'est toujours comme ça, il y a toujours des tentatives, comme je dis, pour reprendre la métaphore du couple, d'adultère, mais finalement, on revient toujours dans le lit conjugal.
Jean-Sébastien Lefebvre, je vous pose la même question que à Marion Gaillard. Ces interconnexions entre des questions de politique intérieure et la bonne santé du couple franco-allemand, c'est quelque chose qui est classique et que vous avez rencontré, j'imagine, dans votre carrière journalistique à Bruxelles.
Oui, parce que la vitalité politique interne influe sur la position de chaque pays à Bruxelles. La fin, par exemple, de l'époque de François Hollande était très moribonde sur le plan intérieur en France et était aussi dans la position française à Bruxelles. Donc les Français étaient un petit peu ignorés, ils ne proposaient pas grand-chose, les Allemands les ignoraient aussi, etc. Quand Macron est arrivé, ça a créé un nouveau souffle dans la politique française et dans la vision que les Européens avaient de la France à Bruxelles. Et les Allemands ont commencé à s'intéresser. Ils se sont dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, après, il y a eu toute une série d'incompréhensions qui ont bloqué les choses, mais il y avait une volonté de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ce nouveau président? Qu'est-ce qu'il va proposer? Comment on va pouvoir travailler avec lui? Les pays se regardent entre eux, et pas que les Français et les Allemands, tous en général. Et un leader un petit peu original ou autre peut provoquer de l'intérêt et renforcer l'influence d'un pays dans la prise de décision. Matteo Renzi a été prononcé. Quand Matteo Renzi est arrivé au pouvoir en Italie, si je ne dis pas de bêtises, c'était vers 2014-2015, il y a eu ce qu'on a appelé la Renzi-mania. On pensait qu'il allait tout changer, qu'il allait avoir peut-être un nouveau couple franco-italien. Bon, ça ne s'est pas passé. Mais voilà, ça a provoqué des changements à Bruxelles qui n'ont pas duré, mais voilà.
Birgit Holzer, on vous parlait tout à l'heure des grands enjeux géostratégiques auxquels l'Allemagne est confrontée. On a quand même le sentiment, on parlait tout à l'heure grande sensibilité allemande au déficit et leur changement complet de paradigme sur cette question. On a le sentiment que sur les questions de politique extérieure aussi, les fondamentaux de la stabilité allemande sont quelque peu remis en cause. Le Pentagone, donc l'armée américaine, a annoncé le départ de 12 000 soldats au mois de juillet. 12 000 soldats stationnés en Allemagne, c'était quelque chose qui était un petit peu un tabou, hein, qu'on annonce depuis quelques années, évidemment, ce retrait américain en Europe. Mais en fait, l'Allemagne aujourd'hui est vraiment, de façon très concrète et très pressante, obligée de se poser la question de sa sécurité. C'est quelque chose que les Allemands ne sont pas habitués à faire et ça a peut-être des conséquences politiques.
Oui, tout à fait. C'est long, c'est lent. Depuis des années, on discute aussi du budget pour tout ce qui est militaire et c'est très difficile pour l'Allemagne de l'augmenter. santé, de dire on est plus présent. Donc je pense que c'est un, oui, c'est un réveil assez lent. En même temps, effectivement, et ça a été souligné, l'Allemagne par exemple, elle est présente au Mali, au Sahel. Donc il y a déjà des pas. Elle est pas
mais avec
aussi...
toujours un peu des réticences pour intervenir. C'est-à-dire qu'on participe à l'arrière, effectivement, il y a des coopérations, mais quand il faut agir et envoyer peut-être des soldats sur les fronts, à ce moment-là, les responsables allemands sont plus frileux.
Oui, bien sûr, après, ça s'explique par l'histoire et ça a ses raisons assez incompréhensibles aussi, mais je pense qu'effectivement, avec le changement vis-à-vis de la relation vis-à-vis des États-Unis, forcément, il faut une certaine émancipation et ça peut passer aussi par l'Europe.
Marion Gaillard, cette remise en cause des fondamentaux de la stabilité allemande, comme je disais à l'instant, ça peut avoir des répercussions sur le couple franco-allemand, au moins dans la façon dont les deux pays se répartissent peut-être symboliquement les rôles.
Oui, j'étais frappée dans la conférence de presse à Brégançon. Elle a quand même prononcé le mot de, la phrase selon laquelle l'Union européenne doit devenir un acteur mondial. C'est pas nouveau. Simplement, c'est vrai que les questions géostratégiques ont pris une place très importante à Brégançon dans la conférence de presse, dans leurs échanges probablement. Et donc ça peut rapprocher éventuellement la France et l'Allemagne. Mais en même temps, je resterai très prudente parce qu'en réalité, des modifications géostratégiques, il y en a eu beaucoup depuis. Les années 1950 et à chaque fois on a pu penser que ça allait rapprocher la France et l'Allemagne sur ces sujets et ça n'a pas toujours été le cas. D'une part en raison effectivement des réticences allemandes mais comme ça avait été rappelé par notre collègue à Bruxelles parce que la France n'est pas toujours prête à partager, c'est-à-dire qu'on propose beaucoup mais quand il faut vraiment partager la souveraineté militaire, partager la décision, c'est autre chose. Et donc je ne suis pas sûre qu'aucun président français soit prêt à assumer un réel partage.
Vous me tendez une perche, Marion Gaillard, vous venez de prononcer le mot souveraineté. Il y a un débat autour de ce que c'est que la souveraineté européenne.
Mm-hmm. C'est le fait pour l'Europe de retrouver une forme d'indépendance et donc de transférer d'une certaine manière les souverainetés nationales, tout en gardant une partie évidemment, au niveau européen pour permettre à l'Europe d'être indépendante. Parce que ce qui va avec souveraineté, c'est l'indépendance, indépendance stratégique, indépendance sanitaire, indépendance numérique. Ça a été égrené par le président Macron pendant toute la conférence de presse. Donc là, il a trouvé, grâce à la pandémie, quelque part, un moyen de mettre sur le devant de la scène cette expression de souveraineté européenne que lui met en avant depuis le discours de la Sorbonne. Et donc essayer de rendre l'Europe indépendante. Mais pour ça, il va falloir un budget. Et autant l'accord du 21 juillet est positif sur le plan de relance, autant il est très timide sur le cadre financier pluriannuel.
Jean-Sébastien Lefebvre, je vous pose la même question qu'à Marion Gaillard. Il y a un débat dans les couloirs des institutions de Bruxelles sur la façon de mettre en œuvre cette souveraineté européenne. Ce n'est pas qu'une question de sémantique, on le comprend bien.
Oui, tout à fait. Alors, à Bruxelles, le terme à la mode, justement, c'est l'autonomie stratégique. C'est un petit peu, finalement, cette question de souveraineté et d'indépendance. Ça veut dire permettre, après la crise du Covid, à l'Union de retrouver une capacité... on peut dire, je sais pas, de production de masques, de molécules, de médicaments, mais plus généralement sur les dossiers très sensibles, énergétiques, militaires ou autres, se détacher des Chinois, des Américains. Mais le problème de fond, c'est que pour ça, il faut de l'argent. Et comme ça a été dit, autant on a un plan de relance, mais pour arriver à l'accord sur le plan de relance, tous les budgets qui étaient prévus par la Commission européenne pour via le plan de relance, financer des outils qui pourraient amener à l'autonomie stratégique de l'Union européenne en termes de entreprises clés, en termes de capacité de production de telle ou telle chose, tous ces budgets ont été coupés pour faire plaisir aux frugaux. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le problème de, voilà, il y a une volonté plus forte qu'avant, même de la part de certains pays du Nord, plutôt connus pour être des pays en faveur du libre-échange, de mettre des limites à ce libre-échange et de créer, voilà, une indépendance européenne sur un certain nombre de sujets. Mais si vous mettez pas l'argent pour le faire, ça restera un vœu pieux et on n'ira pas très loin. Et à la prochaine crise, on se rendra compte de nouveau que l'Europe est dépendante de tel ou tel pays sur tel ou tel sujet. Donc, voilà, il faut que le couple franco-allemand, si c'est vraiment une volonté de leur part de mettre en place cette indépendance, cette souveraineté, aller beaucoup plus loin et continuer à travailler sur le sujet sur les 5-10 années à venir, parce que c'est un chantier très très important. Après, juste pour oui. Terminer, ça peut aussi se faire via des réformes de législation. Là, ce que tout le monde attend en partie à Bruxelles, c'est la réforme du droit de la concurrence, qui pourrait permettre aux Européens de plus facilement à la fois contrôler les investissements venus de l'extérieur, surtout des Chinois ou des Américains qui veulent prendre le contrôle d'entreprises européennes, ou permettre aux entreprises européennes de plus facilement se regrouper pour peser sur la scène mondiale. Donc ça, c'est des outils qui peuvent aussi un peu contrebalancer. Mais à un moment donné, il y a la question des moyens qui se posera toujours. Et aujourd'hui, on les a pas.
Alors, Birgit Hosser, très rapidement, le fait que cette souveraineté européenne soit aujourd'hui débattue, ça peut faire aussi partie de l'héritage qui sera laissé par Angela Merkel?
Ça, c'est à voir à long terme, je pense, mais tout à fait, ces changements, en plus l'héritage, ça sera un héritage de 16 ans de règne, plus ou moins. Oui, je pense les changements au niveau européen, ça va être un des grands points qui vont rester.
Bien, merci beaucoup à tous les trois. Marion Gaillard, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à Sciences Po Paris. Birgit Hosser, journaliste pour la presse régionale allemande ici à Paris aussi. Et Jean-Sébastien Lefebvre, journaliste pour la revue Contexte depuis Bruxelles. The night was cold and I was told to keep the silence and go. Look at the seaside, the trouble is away and the wind blows. Come back, and he stole, he can be mine. C'était An History par Indy Zara sur France Culture. Il est 13h20, vous écoutez le magazine du week-end. Une avancée énorme et un accord historique. Avec la mesure qui lui est coutumière, le président américain Donald Trump a salué la semaine dernière l'accord de normalisation diplomatique conclu entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Le premier ministre israélien lui a emboîté le pas en comparant l'événement au traité de paix historique signé avec l'Égypte et la Jordanie. Abu Dhabi deviendrait la troisième capitale arabe à normaliser ses relations avec l'État hébreu. L'événement est historique, mais pour un observateur averti du Moyen-Orient, il y a quelque chose d'incongru dans ses communiqués diplomatiques. L'absence totale de référence à la position de la Palestine. Certes, on déclare du côté des Émirats que l'accord annule de fait le projet israélien d'annexion de la Cisjordanie, mais les acteurs palestiniens sur place dénoncent un accord qui s'est fait dans leur dos. La chose aurait été impossible il y a seulement quelques années. La question israélo-palestinienne était au cœur de toutes les discussions entre les chancelleries. Cet accord annonce-t-il une ère nouvelle dans la région? L'antédiluvien conflit israélo-palestinien est-il devenu une question périphérique? Qui se soucie encore de la Palestine? Nous en parlons avec deux invités. Leïla Sora, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes enseignante-chercheur à Sciences Po et vous avez publié en 2015 aux éditions du CNRS, Le Hamas et Le Monde. Xavier Guignard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au laboratoire d'idées indépendants Noria Research. Alors, je voudrais déjà vous faire réagir tous les deux au qualificatif qui a été employé pour cet accord de normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Est-ce que c'est vraiment un accord historique, Xavier Guignard?
Alors, il marque évidemment un pas dans l'histoire de cette région, parce que c'est la première fois qu'un pays qui n'était pas fondamentalement en guerre avec Israël signe cet accord. On y reviendra, mais c'est pas la première fois qu'un tel accord fait l'impasse sur les Palestiniens. C'était déjà le cas avec l'accord israélo-égyptien de 79. Mais il arrive à un moment incongru. Il est annoncé par une tierce partie, les États-Unis. En ça, c'est historique. Et on ne sait pas exactement de quoi cet accord est fait, parce que comme il n'y avait pas d'état de guerre, c'est pas un accord de paix. C'est un accord qui encadre un processus de normalisation, c'est-à-dire un processus de négociation vers toute direction, qui va de l'agriculture au tourisme à l'économie de la défense. Ce qu'on nous annonce là, c'est un resserrement des liens entre l'un des pays les plus puissants du Golfe et Israël.
Et il sera sur à la fois cet accord et la façon dont il a été présenté.
Alors oui, je suis assez d'accord avec Xavier, en ce sens qu'il a été présenté comme un accord de paix. Or, il faut complètement le différencier des accords de paix comme celui qui avait pu être conclu entre Israël et l'Égypte en 79, puisque c'était deux pays en guerre, et là il ne s'agit pas du tout de ça. C'est en fait plutôt un accord stratégique entre deux pays qui ont des intérêts communs dans la région, et notamment la volonté de contrer l'influence de l'Iran. Donc c'est avant tout un accord stratégique qui permet à Abu Dhabi de se présenter comme la puissance ou une puissance régionale dans la région, qui est son ambition majeure, une puissance régionale comme pourrait l'être l'Iran ou la Turquie. Et aussi, il faut le dire, je pense, pour les États-Unis et Donald Trump, mais aussi pour Benjamin Netanyahu, cet accord leur permet de regagner en légitimité sur leur scène nationale respective. Pour Donald Trump, il s'inscrit clairement dans la campagne présidentielle, et pour Benjamin Netanyahu, qui connaît une vague de contestation sans précédent contre sa personne en Israël, ça lui permet aussi de dire, voilà, pour la première fois, je parviens à obtenir une normalisation avec un pays arabe, sans concession territoriale, sans accord politique avec les Palestiniens, et en ce sens, il rend d'une certaine manière complètement obsolète le plan de l'initiative de paix arabe de 2002, qui jusque-là restait le cadre de référence des pays arabes, c'est-à-dire la contrepartie à la normalisation avec Israël, c'est l'État palestinien dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est pour capitale.
Et j'allais venir justement à ce que vous décrivez pour qui date de 2002. Effectivement, c'est un tabou, le fait d'effectuer un traité de paix ou de se rapprocher de façon séparée d'Israël pour les pays arabes sans concertation.
Alors, on l'a mentionné précédemment, dans l'accord qui lie Israël à l'Égypte, il était peu question des Palestiniens, mais pour une bonne raison, c'est qu'Israël et l'Égypte, en 79, signaient un accord de paix qui provoquait le départ des troupes israéliennes du Sinaï. et la libre circulation des bateaux israéliens en mer Rouge. Il y avait au moins là une raison pour l'Égypte de signer un accord qui lui était uniquement favorable. Le cadre de l'accord, enfin de la proposition de la Ligue arabe qu'on appelle le plan Abdallah de 2002 était effectivement celui qu'a décrit Leïla. La contrepartie à la reconnaissance d'Israël, c'était l'existence d'une souveraineté palestinienne. Aujourd'hui, le tabou qui est brisé avec cette initiative des Émirats, c'est de ne plus avoir cette précondition. Et ça, c'est un tournant majeur. 2002 marquait déjà un tournant, c'était accepter que l'immense majorité des pays arabes étaient prêts à reconnaître Israël, et il y avait une contrepartie. Avant ça, on pouvait avoir un peu plus de doutes sur qui était prêt à reconnaître même l'existence d'Israël. Aujourd'hui, cette existence est tellement banalisée qu'on peut l'obtenir, cette reconnaissance, sans mentionner même la reconnaissance des droits des Palestiniens. Et c'est ça probablement le tournant auquel on fait face aujourd'hui.
Alors c'est un tabou qui est brisé, on le dit. Est-ce que ça peut être un précédent et est-ce que ça peut augurer d'une vague de reconnaissance d'Israël et de traités de normalisation avec plusieurs autres pays certains ont déjà annoncé, alors il y a eu évidemment des rétropédalages de la part des chancelleries parce qu'on avait même annoncé l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas tout à fait prévu. Mais est-ce que ça peut être un précédent qui permettrait à d'autres pays arabes de normaliser leurs relations avec Israël?
L'Arabie, pour le coup, a campé sur la position de la Ligue arabe de 2002 en disant on est prêt à faire ce pas le jour où il y a un État palestinien. Il y a eu des rumeurs qui ont été lancées sans qu'on ne sache exactement à quoi ça correspond et à qui ça bénéficie. On a quand même le porte-parole du ministère des Affaires étrangères soudanais qui a été limogé suite à son annonce un peu précipitée de négociations presque abouties entre Israël et le Soudan, même si on sait qu'il y a eu des rencontres en février entre le Abdel Fattah Burhan, qui dirige le gouvernement de transition soudanais, et Netanyahou, mais il n'y a pas encore d'accord. On a parlé également du Maroc, on a parlé d'Oman, mais tout ça reste pour l'instant à l'état de rumeurs qui visent simplement à présenter cette initiative des Émirats comme fer de lance d'une dynamique plus large. Les trois parties, États-Unis, Israël et Émirats, ont intérêt à ce qu'effectivement il y ait cet effet d'entraînement. Pour l'instant, on n'a aucune donnée concrète sur qui pourrait venir signer derrière.
Leïla Sora, sur le précédent que ça crée, sur les conséquences géopolitiques que ça peut avoir, cet accord?
Je pense quand même que il y a une rupture. Enfin, vous le dites, c'est un tabou qui est levé, mais c'est également, à mon avis, l'effet domino va avoir lieu au moins dans certains pays du Golfe. Avant tout, le Bahreïn qui a salué officiellement l'accord, qui est un des seuls pays avec l'Égypte qui l'a salué officiellement. Ils sont clairement sur la voie. Déjà, alors. Bon, les Émirats Arabes Unis ont dû le faire nécessairement en concertation avec les Saoudiens. Le Bahreïn le fera en concertation avec les Saoudiens. Le Bahreïn avait déjà l'année dernière officiellement reçu Jared Kushner pour la promulgation de son volet économique du plan Trump. Donc les relations sont là. Le pas, voilà, je crois qu'ils sont quand même clairement sur la voie de la normalisation. L'Arabie Saoudite, c'est un peu plus compliqué pour eux dans la mesure où voilà, déjà ils se présentent comme les garants, les protecteurs des lieux saints de l'islam, donc Al-Aqsa étant le troisième lieu saint de l'islam, ils se présentent comme protecteurs des lieux saints, donc il y a la question de Jérusalem qui reste compliquée.
La question que je voulais vous poser aussi, Leïla Sora, c'est est-ce que ce traité finalement ne met pas des mots et une forme sur une réalité qui existe depuis assez longtemps, puisqu'il y a des communications, des coopérations entre des services étatiques, et finalement ce traité rend visible quelque chose qui existait déjà.
Bien sûr, il officialise, mais le symbole est quand même très fort. De nombreux pays ont des relations avec Israël. En particulier la Turquie et le Qatar, qui sont considérés comme étant justement les ennemis du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, et qui ont quand même aussi des relations avec Israël. Donc relations diplomatiques, relations sécuritaires, relations de défense, coopération entre services de renseignement ne signifie pas nécessairement normalisation. Donc là, on passe quand même à autre chose. Et comme le disait Xavier tout à l'heure, c'est pas une simple normalisation ou un accord de paix comme ça a pu l'être entre Israël et l'Égypte. C'est une normalisation de relations culturelles, de partenariats intellectuels entre des universités. Enfin, on va très loin, en fait. On va y compris assez loin quand on a aussi récemment déclaré que les ressortissants émiratis pourraient voyager à Jérusalem et prier sur l'esplanade des mosquées. Donc, tout ça, c'est quand même nouveau au sens où il y a déjà aussi des pèlerins qui secrètement se rendent à Jérusalem, on le sait, par l'Égypte, par la Jordanie, etc. Mais là, le dire officiellement et l'afficher, ça pourrait aussi inaugurer dans le futur des déplacements de pèlerins musulmans qui se rendent André à Jérusalem.
Alors, vous mentionniez il y a quelques instants la Turquie, donc qui a réagi pour condamner cet accord, comme l'Iran d'ailleurs. Est-ce que les réactions hostiles, notamment des deux pays que je viens de citer, illustrent peut-être les lignes de faille qui travaillent, si on peut parler comme ça, la région aujourd'hui, au-delà du conflit israélo-palestinien, et qui seraient en fait les réelles lignes de faille qui montreraient les rapports de force aujourd'hui, leurs évolutions, et quelque chose qui serait de nature à supplanter l'importance de la question israélo-palestinienne, Xavier Guignard.
Bon, la Turquie fait certainement preuve d'un tout petit peu de malice parce qu'elle dispose d'une ambassade à Tel Aviv depuis des années, de liaisons directes entre Tel Aviv et Istanbul, et elle n'est pas extrêmement bien placée pour donner des leçons de nationalisme et de défense de la cause palestinienne sur ces questions-là. Mais au-delà du symbole, ce que la Turquie dit, ce que l'Iran peut dire dans son opposition, mais on pourrait citer un autre pays qui est peut-être plus intéressant pour nous, qui serait la Tunisie, parce que c'est probablement un des pays arabes qui est le moins, enfin où le gouvernement est le moins loin de son opinion publique. La Tunisie est aujourd'hui un des pays qui est le plus en avance sur la dénonciation de cet accord, parce que ça reste effectivement un tabou, ça souligne probablement des lignes de fracture régionales, ou en tout cas ça augure d'un rapprochement que Leïla a qualifié de stratégique, et je la suis, entre certaines monarchies du Golfe et les Israéliens. C'est une histoire qui s'est nouée depuis maintenant une dizaine d'années autour de la question de la lutte contre l'Iran. C'est-à-dire que la lune de miel entre les Émirats et Israël a commencé à Washington dans la définition d'une position commune par rapport à ce qui se jouait dans les négociations entre l'Iran, les États-Unis et l'Europe. Et de cette lune de miel est née l'idée que leur survie ou leur défense ne peut se passer d'un accord commun. Pourquoi ? Notamment parce qu'ils ont peur un jour du retrait américain et qu'ils ont besoin de faire front commun. Et ce front-là, à mon avis, est plus intéressant à observer qu'un jeu de tectonique avec le Qatar et la Turquie, parce que on l'a rappelé, ils arrivent aussi à avoir des relations avec les Israéliens.
Alors, est-ce qu'on peut parler pendant quelques temps peut-être des contreparties, ou de ce qui est présenté comme une contrepartie à l'adoption de ce plan, c'est-à-dire le gel de l'annexion de la Cisjordanie qui avait été annoncée par Benjamin Netanyahou? Bon, c'était une promesse de campagne, hein, vous en parliez tout à l'heure, dans un contexte électoral compliqué, 3 élections récemment en Israël. Mais c'est une concession qui a été quand même présentée comme une victoire par les Émirats. C'est pas tout à fait clair pour Netanyahou, c'est quelque chose de temporaire, Leïla Sora.
Oui, je crois que clairement, la question de l'annexion, il faut la déconnecter de l'accord. Alors, MBZ, Abu Dhabi, l'a présenté comme
Mohamed
une concession.
Ben Zayed, hein, l'homme fort.
Mohamed Ben Zayed l'a présenté comme, il a mis de côté la question palestinienne. Il a préféré, une normalisation directe avec Israël. Donc, il fallait bien qu'il fasse un peu un faux semblant de proposer une contrepartie ou de dire officiellement aux Palestiniens, je vous ai obtenu quelque chose. Or, on le sait depuis plusieurs semaines, Netanyahou lui-même avait reculé sur la question de l'annexion en disant « on va reporter l'annexion ». L'annexion est une question compliquée pour lui, d'abord parce qu'il n'a pas le feu vert des Américains, donc sans le feu vert des Américains, il ne peut pas annexer ni la vallée du Jourdain, ni les colonies. Et aussi parce que la Jordanie s'est farouchement opposée à ce projet, notamment donc de l'annexion de la vallée du Jourdain, qui a un problème. Donc pour Israël, ça peut même mettre en péril en fait son plan, son traité de paix avec la Jordanie. Mais en même temps, il peut pas non plus complètement reculer, dans la mesure où sa coalition même gouvernementale repose sur avec Benny Gantz et l'extrême droite israélienne, donc qui lui a permis de former un gouvernement et de sortir de l'impasse in extremis. Elle repose aussi sur l'annexion. Donc c'est une question compliquée qui fait qu'il peut à la fois pas complètement reculer, mais en même temps, pour l'instant, il a pas de feu vert ni des Américains et puis ni de la communauté internationale, des Européens, etc., qui continuent aussi de critiquer cette politique.
Alors, qui se soucie encore de la Palestine? C'est la question que nous posons à nos deux invités, Xavier Guignard et Leïla Sora. Quand même, un mot pour évoquer pour nos auditeurs qui sont parfois peu, peut-être pas toujours en connaissance des bons éléments pour ces éléments de diplomatie palestinienne. De quoi on parle quand on parle de diplomatie et de Palestine? De quels éléments jouit la Palestine? Alors en termes de souveraineté, il faudrait qu'on discute de ce que c'est que la différence entre évidemment le Hamas qui administre la bande de Gaza, le Fatah de Mahmoud Abbas qui lui dirige l'autorité palestinienne en Cisjordanie, avec évidemment beaucoup de subtilité, de nuances à comprendre. Mais fondamentalement, la Palestine aujourd'hui dans les institutions internationales, c'est quoi? On sait que le pays est membre de l'UNESCO, il est aussi membre observateur non participant de l'ONU. De quelles ressources diplomatiques disposent les Palestiniens, Xavier Guignard?
Voilà, pour répondre à votre première question, en tout cas sur la souveraineté, ils disposent d'aucune ressource. C'est un gouvernement qui n'est pas souverain, quel que soit l'endroit où il se situe, hein, qu'on parle de celui de Gaza ou de Cisjordanie, il est soumis à la tutelle israélienne qui prend différentes formes. À l'extérieur de ses frontières, la Palestine existe formellement à travers l'Organisation de la Libération de la Palestine, l'OLP, qui est l'organe reconnu par la Ligue arabe et par l'ONU depuis 1974. Et c'est l'OLP qui siège à l'ONU. Le travail de l'autorité nationale palestinienne qui siège à Ramallah depuis quelques années est de formaliser la reconnaissance bilatérale obtenue par tout un tas d'États pour que ça soit l'État de Palestine et non plus l'OLP qui siège dans les instances internationales. Quelle est la différence? C'est que ça permet déjà de parler d'État de Palestine et puis de sortir de cette dualité qu'il y a entre une OLP qui est une organisation née d'un mouvement révolutionnaire de libération nationale dans les années 60, établi dans les années 70, et l'autorité nationale palestinienne qui est juridiquement sous la tutelle de l'OLP, qui est l'administration à la base temporaire. Elle devait avoir 5 ans entre 94 et 99 pour permettre l'État. Elle a aujourd'hui une trentaine d'années. Donc ceci est très confus, y compris pour les Palestiniens. Il y a deux structures de pouvoir qui sont faites très mélangées. Le fait de pousser pour la reconnaissance d'un État de Palestine permet de parler d'une seule voix depuis Ramallah, ce qui a aussi comme conséquence de marginaliser 60% de la population palestinienne qui se trouve en dehors de ses frontières, et puis de masquer la distinction sur laquelle peut-être on peut revenir, qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, où on a deux gouvernements palestiniens, donc un à Gaza et un en Cisjordanie.
Alors, cette situation semble figée. Ce que vous décrivez, c'est peut-être un peu la fin d'un cycle. Est-ce que ça peut tenir combien de temps? Est-ce que la figure de Mahmoud Abbas est encore respectée en interne par la population, dans les attentes de la population? Est-ce qu'il n'est pas aussi arrivé à la fin d'une logique avec ces logiques extrêmement complexes que vous avez décrites il y a un instant?
Bon, il arrive à la fin d'un cycle depuis que son mandat est arrivé à échéance en 2009. Donc c'est un cycle qui n'en finit pas d'arriver à son terme. Il représente en tout cas la fin de l'espoir que cette concession majeure que les Palestiniens avaient fait, qui est d'accepter de n'être autonome que sur 22% du territoire de la Palestine historique, ce qui est le deal des accords d'Oslo en 93. En l'échange de leur souveraineté, aujourd'hui, cette équation ne parle plus à personne. Quelle que soit la solution qu'on imagine derrière, un État, plusieurs États, une confédération, aujourd'hui, ce que Mahmoud Abbas représente, c'est l'effondrement de la croyance en la solution en deux États, mais pas d'un point de vue idéaliste. C'est fondamentalement, il est la démonstration que malgré toutes les concessions, malgré toute la bonne volonté qu'il a incarnée, il n'a pas été capable d'obtenir cet État. Et je pense que ce qui est partagé par la rue palestinienne aujourd'hui, c'est que si lui n'a pas obtenu, en étant aussi modéré, personne n'arrivera à l'obtenir.
Alors on va passer de Ramallah à Gaza avec vous, Leïla Sera. On a parlé d'un rapprochement entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas. Ce processus de rapprochement est bloqué aujourd'hui. C'est quelque chose qui est encore de l'ordre du possible ou de l'imaginable, un rapprochement entre les frères ennemis palestiniens?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que ce rapprochement soit possible. Alors, récemment, encore, je crois hier ou avant-hier, le président palestinien rassemblait justement à Ramallah certaines factions, notamment donc du Hamas, du Jihad islamique, du FPLP, enfin des factions qui ne sont pas membres de l'OLP, dans le but de parvenir une nouvelle fois à un accord politique, une réconciliation, une unité nationale palestinienne qui est totalement factice en fait, qui n'existe pas puisque depuis au moins 2006, donc depuis que le Hamas a gagné les élections législatives en janvier 2006, a formé un gouvernement, puis ensuite a pris par la force la bande de Gaza. On a, comme le disait Xavier, on a eu ensuite deux gouvernements. Alors officiellement, le Hamas prétend ne pas avoir un gouvernement à Gaza, mais dans les faits, il a clairement un comité de coordination qui s'occupe des affaires civiles, qui s'occupe des affaires de l'administration de Gaza. Et donc, il est accusé de faire le jeu des Israéliens, de créer un mini-État à Gaza, d'avoir ses propres structures, son gouvernement, ce qui de facto est vrai. Mais il faut aussi rappeler que le président palestinien ne veut pas non plus de la réconciliation, ne peut pas non plus obtenir cette réconciliation parce qu'il est sous pression des Israéliens qui n'en veulent pas, des Américains. Donc, l'impasse est totale dans la mesure où si, même si les Palestiniens souhaitaient unir leurs rangs, ils ne pourraient pas le faire.
Alors, j'évoquais il y a quelques minutes un conflit périphérique qui serait cette question israélo-palestinienne aujourd'hui. Il faut signaler pour nos auditeurs que la bande de Gaza subit des bombardements israéliens depuis quelques jours qui font suite à des attaques, à des tirs de roquettes. On en parle assez peu dans les médias et en soi c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'on aurait imaginé avoir un tel silence ou parler aussi peu de ce genre d'événement il y a quelques années encore, Leïla Sora?
On en parle assez peu parce que finalement c'est quasi mensuel, voire hebdomadaire, j'allais dire depuis au moins 2018, hein. Depuis la marche du retour, depuis la proclamation le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem et le déclenchement de la marche du retour à Gaza, les bombardements, donc lancement de ballons incendiaires, tirs de roquettes, réponse israélienne, enfin. On ne peut plus les compter, j'allais dire. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle moins. Il s'agit là d'une tentative de la part du Hamas et des autres factions palestiniennes à Gaza d'obtenir alors la levée du blocus partielle ou complète. La levée du blocus, en tout cas, au moins, et alors les exigences sont des exigences qui concernent la bande de Gaza. Donc c'est pour ça aussi que le Hamas est accusé, notamment par l'autorité de Ramallah, de faire le jeu des Israéliens, au sens où ses demandes concernent des demandes de la vie quotidienne pour les Gazaouis. L'eau, l'électricité, le salaire des fonctionnaires, le paiement de la part du Qatar. Donc le Qatar paye quand même 100 millions par mois mensuel au Hamas, qui tout ça passe par à travers un accord avec les Israéliens. Et donc les Israéliens, pour des raisons aussi de politique intérieure, ne veulent pas complètement céder sur toutes ces demandes du Hamas. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre, en fait, cette escalade, ces tirs de roquettes, ces ballons incendiaires, en fait.
Alors, j'aimerais qu'on parle d'un acteur diplomatique important dont on a beaucoup parlé ces derniers temps à l'occasion de la conclusion de cet accord entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Cet acteur, il s'appelle Mohamed Dahlan. C'est un ancien protégé de Mahmoud Abbas qui est originaire de Gaza, un ancien conseiller à la sécurité nationale de Mahmoud Abbas. Il a dû quitter la Palestine en 2011 pour se réfugier aux Émirats, où il avait rencontré déjà quelques années plus tôt l'homme fort des Émirats, Mohamed Ben Zayed. Ce profil, alors quel est son rôle dans l'accord qui a été conclu récemment? Et est-ce que c'est quelque chose de nouveau que ce type de profil apparaisse dans les relations internationales entre des Palestiniens et les pays arabes et Israël?
C'est un personnage qui suscite beaucoup de fantasmes, hein, parce que c'est un ancien cadre de la sécurité à Gaza, puis auprès du gouvernement en Cisjordanie, qui est effectivement, comme vous l'avez rappelé, exilé aux Émirats. Il est conseiller politique, hein, d'MBZ. On le présente comme l'architecte de cet accord et j'accorde très peu de crédit à cette idée pour deux raisons. La première, c'est que ça fait croire que la question palestinienne est au cœur de cet accord, or elle est complètement marginale. Le rapprochement entre les Émirats et Israël se passe allègrement de discuter la question palestinienne et en ce sens, la plus-value de Dahlan à cet égard est nulle. Les Émirats n'ont pas besoin de Dahlan pour savoir parler aux Israéliens. On le rappelait tout à l'heure, ils le font depuis une dizaine d'années. Puis la deuxième raison, c'est que Dahlan est le porte-voix de la contre-révolution arabe que les Émirats reprennent, c'est-à-dire depuis 2011, enfin après 2011, il y a une vague réactionnaire qui s'est incarnée avec le coup d'État de 2013 en Égypte et puis ce qu'on peut voir en Libye, au Yémen. Il y a une vraie tentative des Émirats de contrecarrer les demandes populaires qu'on a vu se manifester il y a une dizaine d'années. Il joue un rôle là-dedans, mais il n'en est pas l'initiateur. Je pense qu'il ne faut pas lui prêter autre chose que son rôle de représentant de commerce de cette contre-révolution.
Leïla Sora, l'irruption quand même de cette figure importante ou présentée comme telle, avec peut-être les précisions évidemment qu'apporte Xavier Guignard, c'est quand même peut-être la démonstration que la diplomatie ou les rapprochements entre les groupes qui se revendiquent des Palestiniens et les pays de la région passent aujourd'hui par d'autres moyens, par ce genre d'initiative tout à fait personnelle.
Oui et non, dans la mesure où je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Xavier, c'est-à-dire que l'accord, à mon avis, est beaucoup plus grand que la personne de Dahlan. Il me semble que la personne de Dahlan, en revanche, permet à Mohammed Ben Zayed de dire aux Palestiniens et aux pays arabes, voyez, j'ai un Palestinien avec moi. Donc c'est un peu comme la question de l'annexion. Je vous ai concédé, je vous ai, voilà, grâce à moi, l'annexion est reportée. Voilà, on a quand même Dahlan avec nous, donc finalement, il y a des Palestiniens qui sont avec nous. Et à mon avis, ça s'inscrit aussi plus largement dans une campagne de dénigrement des Palestiniens plus générale dans les pays du Golfe. Il y a un certain nombre de journalistes, d'écrivains, qui de tous ces relais aussi intellectuels qui ne cessent d'accabler les Palestiniens. C'est pour ça qu'on dit aussi souvent la rue arabe est pro-palestinienne. Certes, elle est, si on veut, des grands schémas comme ça généraux, elle est pro-palestinienne, mais il y a quand même des campagnes de dénigrement qui consistent à dire les Palestiniens, vous nous ont kikinés, ça suffit un petit peu, vous avez détruit le Liban, vous avez détruit la Jordanie, vous n'êtes pas capable de vous rassembler, vous avez vendu vos terres aussi. Alors faut voir les feuilletons en Arabie Saoudite du Ramadan, les nouveaux feuilletons qui voilà, sur la chaîne MBC donc saoudienne, qui font quand même leur petit succès, quoi, qui consiste à dire finalement, bon, la présence juive sur cette terre, c'est des relais en fait indirects des Israéliens. Donc même sur le plan des culturels, on a aussi toute une vague qui consiste à voilà, balayer en fait, laisser de côté cette question palestinienne et s'en débarrasser.
Xavier Guignard, vous êtes d'accord, cette idée selon laquelle la question israélo-palestinienne passerait au second plan dans la région, en train de devenir une question secondaire?
Complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, au sens où c'est la priorité, ce n'est plus la priorité de personne, la question palestinienne. En ce sens, elle a été reléguée depuis au moins une dizaine d'années, voire plus. Elle a déjà été reléguée après la signature des accords d'Oslo, parce que c'était moins lisible pour les puissances régionales de savoir comment se positionner par rapport aux Palestiniens qui eux-mêmes acceptaient cette transaction, et plus encore après 2011 où l'éruption de la violence à très grande échelle dans la région a rangé au second ou troisième rang la question palestinienne, avec cette différence qui est quand même notable, c'est que c'est la seule cause qui ne polarise pas complètement au niveau de ce que Leïla Sora a appelé la rue arabe. C'est vrai qu'il y a un tissu d'intellectuel, il y a un tissu de politique qui aujourd'hui s'exprime contre l'idée palestinienne, mais il reste encore minoritaire, même s'il y a fondamentalement une direction nouvelle qui se crée. Mais c'est une cause qui est encore un tout petit peu en capacité de rassembler. Ce qu'on voit par contre, et la vraie différence avec ce qui s'est passé dans les années fin des années 70 quand l'Égypte a signé son accord de paix, c'est que d'une, plus personne n'a la capacité de mobiliser à très grande échelle sur cette question-là. Il faut se rappeler que la Ligue arabe a déménagé du Caire après la signature des accords israélo-égyptiens. Et puis, on a l'impression que les autocrates n'ont plus besoin de continuellement se servir de cette question-là. Alors que la question palestinienne était très utile dans les années 80 et encore 90 pour eux, comme facteur de légitimation. Aujourd'hui, ils arrivent à faire sans. Et ça aussi, c'est une nouveauté.
Eh bien, merci à tous les deux. Leïla Sora, je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse à Sciences Po. Xavier Guignard, vous êtes chercheur du laboratoire d'idées indépendants Noria Research. C'était la dernière édition du magazine du week-end cet été, une émission réalisée par Véronique Samouilov, à la technique Adèle Caglar. Et un grand merci à toute l'équipe qui s'est succédée pour préparer cette émission depuis le mois de juillet. Fanny Richer, Jules Crétois, Stéphanie Villeneuve, Catherine Donnet, Aliette Auvin, Lucas Lazo et Léo Grier. Évidemment aussi un salut tout particulier pour Julie Gacon qui était à ce micro tout au long de l'été. Vous la retrouverez dès demain matin dans Les Enjeux internationaux. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve samedi prochain dans l'émission Politique par Hervé Gardette.